André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Dans la suite de notre émission de la semaine dernière, nous poursuivons aujourd'hui avec une quatrième sur la vie et l'œuvre des deux artistes duettistes Jean Poiré et Michel Serrault, avec nos deux comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour Françoise, bonjour à tous.
Content de vous retrouver. Août 1944, Paris est libéré. Le théâtre a survécu à l'occupation. Jean Poiré survivra à l'épuration en brandissant une nouvelle arme, l'humour. Les cabarets fleurissent un peu partout. Il a quitté le centre de la rue Blanche au moment où Michel Serrault y entre. Il erre cependant plusieurs mois, passant d'une audition à une autre. Heureusement, il y a les amis, Robert Derry, qui est en contact avec plusieurs cabarets, dont les Deux Ânes. Deux chansonniers, Robert Roca et Jacques Grélot, en collaboration avec René Dorin, écrivent un prochain spectacle. On parle ongles. Robert Derry est chargé de la mise en scène. Il recrute des comédiens talentueux mais pas chers. Il rabote des amis dont Jacques Legras, Jacques Morel, Raymond Souplex et Jean Poiré. En tout, 9 acteurs. Le groupe est baptisé Les Pingouins. Jean a trouvé sa voie et son emploi. Amuseur. La première a lieu en février 1945. Les spectateurs rient. Francis Blanche propose de leur écrire des chansons. Pas de jour de relâche aux Deux Ânes. Tous les soirs, plus une matinée le samedi, 2 matinées le dimanche et une autre matinée le lundi. Mais les Pingouins s'arrangeaient pour se produire après chacune d'elles aux Folies Belleville, au Concert Pacra et dans divers autres music-halls. Les Pingouins ne sont pas rentables. Les directeurs S. Cabaret les paient au numéro, divisé par 9. La décision attendue finit par tomber. Séparation. Jean ne tient pas en place, il veut travailler. Il ne cesse d'échafauder des projets plus décalés les uns des autres. Il ne peut tester son humour. Il convainc deux amis, Robert Rollis et Laurence Riesner. Ils créent les Spataras Gonflards. Ils interprètent des histoires absurdes et ils s'ébrouent dans l'absurde. Les directeurs de théâtre les acceptent à laisser. Le public rit peu. Un soir, dans un petit cabaret de Montmartre, un journaliste remarque Jean Poiré, c'est Pierre Tchernia. Faute d'admirateurs, ce trio doit cesser, mais aussi par la faute de son créateur. Une institution militaire ne l'a pas oublié, sous les drapeaux, à Salon de Provence. Il sera bibliothécaire et se réfugia dans le monde magique des livres. Dès son retour à la vie civile, il se précipite aux Deux Ânes. René Dorin est toujours aux manettes. Chansonnier, qui est presque une légende, il prépare Les Mains Propres, un clin d'œil évident à la pièce de Sartre. Autour de lui, une équipe aguerrie à laquelle s'ajoute sa fille, Françoise Dorin. Jean passe une audition et est pris. Il déborde tellement d'énergie que Dorin décide de lui écrire de nouveaux rôles. Il pourrait remplacer n'importe quel acteur. Dorin était pour lui un modèle. Il écrivait vite, mais en réalité, il pesait chacun des mots et travailler chacune de ses tournures. Le démon de l'écriture tiraillait Jean Poiré. Le quotidien de Jean tourne autour des Deux Ânes. Entre lui et Françoise naît une idylle. Il enchaîne revue sur revue. De 1948 à 1952, il fait sa première apparition devant les caméras dans un court-métrage avec Martine Carole. Les textes et les dialogues sont de Michel Audiard. Il fait ses débuts à la radio dans un feuilleton « Malheur aux barbus » avec Pierre Dac et Francis Blanche. Ce dernier débordait d'imagination prodigieuse. Il était poète, parolier et auteur de ballets. Un exemple à suivre pour Jean, qui n'a pas l'intention de se contenter de son métier de comédien. Le cabaret, c'est le soir. La nuit, il apprend que le théâtre Sarah Bernard organise des matinées classiques. Il se rend, place du Châtelet, pour participer à une audition. Les candidats sont très très nombreux. Il trouve une chaise libre à côté d'un moustachu. Il dit assez fort en plaisantant « De toute façon, je suis sûr d'être engagé, j'ai une fortune personnelle. » « C'est comme moi, lui répond son voisin du tac au tac. Ma mère connaît la cousine du concierge. Et on a beau dire, le piston, ça joue. Et les deux jeunes gens se présentent. Poiré, Serrault. Voici un sketch de Poiré Serrault, intitulé Les Antiquaires, et ce qu'en dit Michel Serrault. Si vous voulez que les spectateurs vous écoutent et vous croient, il faut donner toute la vérité qui est en vous. Pour ce sketch, Les Antiquaires, nous avions trouvé l'inspiration dans une boutique près de chez Jean. Nous brocardions une mode de l'époque qui baptisait Antiquité, une vieille bouche d'égout transformée en porte-revue par une couche de vernis. Voici Les Antiquaires avec Françoise et Philippe et votre serviteur dans le rôle du client.
Dis donc, Michou, là, depuis le temps que je te le dis, il faudrait penser à ôter les petites opalines roses là, qui sont dans la vitrine.
Comment tu as vendu les petites opalines roses?
Elles sont vendues. Alors, si on continue à aller voir dans la vitrine, il y a des clients qui vont entrer, qui vont nous demander le prix de ça, on va être empoisonné.
Oui, mais maman, enfin, tu es terrible. Je ne voulais pas m'en défaire. Mes deux opalines roses, non.
Mais tu n'avais qu'à me dire que tu avais une option dessus. C'est Madame Kurtz qui les a prises. Elle voulait n'en prendre qu'une et puis finalement, elle a pris les deux. Elle voulait faire un cadeau.
Oui, mais enfin, si ça continue comme ça, autant fermer boutique. Nous n'aurons plus rien à vendre du tout.
Mais je sais bien. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a un rush sur l'antiquité. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils veulent placer leurs sous.
Dis-moi, Coco, la grille d'égout, là. Qu'est-ce qu'on en fait? On la jette ou quoi?
Écoute, ne me pose pas de cette question, là. Je t'ai déjà répondu. On n'a rien en magasin. Alors, ce n'est pas le moment de se séparer du matériel.
Mais la grille?
Oui, ben, la grille d'égout, elle est très jolie. Il n'y a qu'à la faire dorer et puis on va la vendre en porte-revue, c'est tout.
Ah oui? Ah ben tu as raison, oui. Ou en lampadaire alors?
Non, monsieur, c'est terminé ces caprices. On monte tout en lampadaire. On peut bien pour une fois faire un porte-revue. Je sais pas ce que tu as dans la peau. Hein. Chut, tais-toi, il y a un client. C'est pas le moment de se disputer. Tu t'en occupes ou je m'en occupe?
Non, j'ai pas le temps. Il faut que je termine cette boîte de cirage que Madame Léonard m'a demandé de monter en abat-jour. J'ai encore beaucoup de travail.
Bon, je vais m'en occuper. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger.
Mais vous ne me dérangez pas du tout. Vous désirez. Vous avez vu quelque chose?
J'ai besoin de différentes choses. Je m'installe.
C'est pour chez vous, alors?
C'est pour chez moi.
Attendez. Alors, si c'est pour chez vous, je vous ferai des maquettes, des petites maquettes. Je vous ferai des décorations, des petits croquis, des choses comme ça.
Oui.
Alors, je voudrais avoir un petit renseignement dans ce but-là.
Oui.
Je voudrais savoir en quoi vous êtes meublé présentement.
En Charlemagne.
En Charlemagne.
Mais fin Charlemagne. À cheval sur la fin Charlemagne et Directoire.
Ah, dis donc, alors ça, c'est un grand cheval, hein. C'est un gros dada.
c'est joli, c'est joli fin Charlemagne Directoire. Hein. Et puis ces deux époques qui vont bien ensemble. Hein.
Oui, c'est très chic. Hein. Mais alors dites-moi, monsieur, vous avez la grande table en pierre,
hein? Ah oui, j'ai le menhir.
Ah ben oui, c'est le menhir qu'on fait avec ça. Avec les bouts qui se rabattent?
Ah non, d'un seul bloc.
Oui, d'un seul bloc, oui, c'est joli.
Mais le menhir, c'est très bien, hein. Nous, on en a eu un. On l'a fait monter en lapin d'air, c'était une merveille.
Tu te souviens l'allure que ça avait? Et puis alors, hein, ce que c'est solide.
C'est solide, mais ça tient le coup.
Ah, ça nous fait un usage, vous ne pouvez pas savoir. Dites-moi autre chose. Vos murs, ça aussi, ça a son importance dans la décoration générale. Vos murs sont peints ou tapissés? Comment sont-ils?
Tout en mosaïque, à la turque.
En mosaïque. Alors ça... Ah, je suis un petit peu perplexe là, pour vous conseiller, parce qu'avec les menhirs et de la mosaïque, on ne peut pas mettre une foule de choses. Hein. C'est quand même limité. Hein. Les menhirs et la mosaïque, c'est limité.
Oui, c'est quand même un style particulier. Faut faire attention.
Ah, il y a guère que le Louis XVI qui puisse aller avec ça.
Ah oui.
Un petit secrétaire Louis XVI, on peut tenter le coup.
Il a raison. Montre donc à monsieur le petit secrétaire Louis XVI, là, qui vient de nous rentrer en Bois des Îles.
Je vais lui montrer ça. Ça n'engage à rien.
Je voudrais vous poser une question. Vous ne pensez pas que ce sera trop fragile ?
Vous savez, ce sont quand même des meubles qui ont 200 ans. Il faut en tenir compte.
Évidemment, il ne faut pas les laisser à l'humidité.
Ah non, autant que possible. Est-ce que vous avez l'eau courante chez vous ?
Oui, j'ai l'eau courante.
Alors, il ne le supportera pas.
Là, voyez, je ne me déplace même pas. Non, mais je sais la réponse d'avance. Il ne le supportera pas. Ce sont des meubles d'une susceptibilité. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est comme les gosses, comme des grands gosses. On a failli avoir un pépin terrible avec le fauteuil.
Un cauchemar ?
Un fauteuil Louis XIV, mais on a failli avoir des ennuis.
Mais je vais vous raconter. Mais il y a combien de temps de ça ?
Je ne sais pas. 3 ans et demi, 4... Non, ah, plutôt...
Enfin, peu importe.
Oh, des soucis, mais des soucis.
Oui, un jour, nous avons vendu à des gens vraiment pas intéressants, des mauvais clients, et un très beau fauteuil Louis XVI. Il était authentique, n'est-ce pas ?
Oh, et signé ! Il était signé !
Ah, oui !
Signé Louis XIV.
Ah bon ?
Ah ben, je sais plus si c'était Louis XIV, mais en tous les cas, il était signé.
Signé, oui, Monsieur Frère du Roi. A vraiment une pièce superbe, vraiment authentique, avec certificat. On ne voulait pas s'en défaire. Bref, le fauteuil ne s'est pas plu chez ces gens-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a fait des réflexions méchantes. Ces gens-là n'arrêtaient pas de passer devant le fauteuil en disant « Il n'a pas de style, on a été refait, si on avait su, on ne l'aurait pas acheté. » Vous vous rendez compte ?
Non, vous vous rendez compte devant un fauteuil ?
Eh bien, on ne sait pas si c'est ça. Toujours est-il qu'il s'est émis à dépérir, à s'étioler. Il a perdu toute sa forme et c'est devenu un tout petit banc.
Vous rendez compte, monsieur, de ce que ça fait ?
Je me demande alors si, tout compte fait, je ne vais pas prendre une table en zinc.
Une table en zinc, oui, c'est autre chose.
C'est bien, hein ?
C'est pas mal non plus, mais c'est autre chose.
Une table en zinc que je ferai redorer, vous voyez ?
De toute façon, il faut toujours faire redorer, surtout le zinc.
Ah oui ! Si on veut que ça fasse jaune, on a intérêt à redorer. Et alors, mes enfants, ce qui se pourrait être bien, c'est une babiole là-dessus. Un vase, une bonbonnière, une petite chose, je sais pas. Une petite tasse de style, une petite tasse d'époque comme celle-ci, là. Elle est ravissante.
Oh, elle est merveilleuse.
Et puis, elle est ancienne.
Vous n'auriez pas la même, pas dorée et sans motif ?
Alors, pas dorée et sans motif, je ne sais pas. Non, on ne l'a pas en magasin, mais bon, on peut essayer de vous la procurer.
Et de préférence, pas en porcelaine non plus. C'est tellement fragile, je trouve.
Ah oui, alors, ça va être plus difficile alors, oui.
J'irais même jusqu'à dire que si elle n'avait pas tout à fait la même forme, eh bien, j'aimerais autant, vous voyez ?
Oui. Ah, je vois que vous êtes fixé. Alors, effectivement, nous avons un modèle sans dorure en bois, bon, d'une forme un petit peu différente, sans anse, avec 4 pieds.
Ça ne me gêne pas du tout.
Seulement, c'est plus une tasse, c'est un escabeau, c'est le seul ennui.
Mais j'ai déjà un escabeau.
Bah, si vous en avez déjà un, tant pis. Si monsieur en a un. Seulement, voilà, vous entrez ici. On sait pas ce que vous voulez, vous dites « je veux meubler », mais c'est pour quelle pièce d'abord ?
Ne t'énerve pas, Coco.
Ah, mais non, mais tu sais, ils m'énervent. Ils m'énervent, ces gens-là.
Oui, mais enfin, ne te mets pas dans cet état, non ?
Mais c'est pour un living ou pour un salon ?
Non, c'est pour mon armoire.
Pour votre armoire ?
Oui, j'ai une grande armoire vide, alors je veux la meubler. Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Vous voudriez mieux de mettre des cintres comme motif décoratif, ce serait mieux.
Oui, il a raison. Et des cintres montées en lampadaire, ce serait bien.
Oui, enfin, pas forcément en lampadaire, mais on peut voir.
Vous ne craignez pas que ça fasse un peu nu, des cintres tout seul comme ça ?
Mais monsieur, des cintres, vous pouvez y accrocher des choses.
Comme quoi ?
Moi, j'ai mis des impairs aux miens, par exemple. Et vraiment, pour quelques billets de 1000, on fait une très belle décoration.
Ah bon ? Et alors, sur la planche du dessus ?
Ben, quelques conserves montées en lapin, c'est très 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 bien. Hein.
Alors, moi, je pensais à quelques salaisons de Bretagne.
Un lapin d'air ?
Bon, lampadaire ou non ?
Non, vos solutions ne m'emballent pas.
Alors zut, hein ? Moi, je dis zut.
Chut, Ne t'énerve pas.
Je vous donne mon avis. Je suis d'autant plus embêté que j'avais un cadeau à faire.
Bah, écoutez, monsieur, si vous n'êtes pas trop pressé, on veut bien essayer de vous le procurer, ce cadeau.
Oui, mais c'est un cadeau pour une cérémonie, alors...
Ouais, tu vois, c'est pressé. C'est pour un mariage ou un baptême?
C'est pour un décès. C'est pour une veuve.
Ah bon? Bon, vous aviez quelque chose en vue?
Non, pas spécialement.
Une petite console pour une veuve, c'est toujours plaisant.
Une console Louis XIV?
C'est déjà une veuve d'un certain âge.
Bon, bah, alors nous avons plus vieux. La console Louis XIII.
De vous à moi, j'aurais préféré faire un cadeau moins important.
Oh, écoutez, monsieur, hein, à la fin des fins, quel genre alors?
Je ne sais pas, j'ai vu quelque chose l'autre jour qui aurait bien fait mon affaire.
Ben, dites ce que c'est. Mettez-nous sur la voie, vous êtes empoisonnant. J'ai vu des choses, mais il faut savoir quoi.
C'était une espèce de...
Une espèce de quoi?
Une espèce de machin...
Un service à café?
Non, une seule pièce, un récipient.
Un cèdre, alors?
Non, plat.
Un encrier directoire?
Non, plus large.
Une chaise à porteur?
Non, plus petit.
Un mannequin pisse?
Non, je ne crois pas que ça s'appelle comme ça.
Un guéridon?
Non, un machin avec une queue.
Un chien?
Mais non.
Bah, ça peut pas être un chien. Mais c'est pour quoi faire?
Des frites.
Oh, une poêle, Coco.
C'est ça, une poêle à frire.
Monsieur, bah, je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter à la porte de cette boutique.
Hein. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est?
C'est rien, ça.
Ça sert à quoi?
Bah, ça sert à rien.
À rien? Mais c'est rare.
Oh, rarissime, monsieur. Quasiment introuvable.
C'est curieux. Et c'est absolument inutile.
Oh, absolument. Ah, ben ça. Je vous le garantis sur facture. Hein.
Comment ça s'appelle?
Un serrarien. D'ailleurs, c'est le nom.
À ne pas confondre avec le serratou, qui a la même forme, et dont on peut se servir pour mille choses.
Vous me jurez que ça ne peut être d'aucune utilité?
Écoutez, monsieur, c'est simple. Il y a le poinçon.
Ah oui?
C'est le poinçon de l'Institut de contrôle de serrariens. Il a été essayé. Du moment qu'il y a poinçon, c'est qu'on ne peut vraiment rien en faire. Hein.
Si j'étais sûr qu'on ne peut absolument rien en faire, je crois que je me laisserais tenter.
Mais écoutez, monsieur, si vous pouvez en faire le moindre usage, moi je vous le reprends.
C'est une folie, mais tant pis, je l'achète. Ouais, donnez-le-moi.
Écoutez, hein, je vais essayer à mon tour de vous trouver un semblable.
Vous n'avez pas le même?
Malheureusement, celui-ci a été vendu. Je ne peux pas...
Vous le faites exprès, ma parole. À chaque fois que je vous demande quelque chose, vous me répondez « Ah non, je ne l'ai pas en magasin, mais à quoi ça ressemble ?» Vous avez une boutique, alors vendez-moi quelque chose. Non, mais vous ne me connaissez pas, hein. Je me suis juré de faire une acquisition et je la ferai. Je ne sortirai pas d'ici sans avoir acheté.
Mais monsieur, on ne vous refuse pas la vente, mais quand on n'a rien à vendre, on n'a rien à vendre, enfin.
Trouvez-moi quelque chose.
Mais on n'a rien de rien, on n'a rien, alors s'il y a ça...
Moi?
Oui, il y a cet article-là.
Mais enfin, tu ne vas pas me vendre.
Non, mais je suis trop commerçant. Mais quand j'ai quelque chose à vendre, je le vends.
Pour me donner une idée, de quelle époque est-il?
Non, mais attendez dedans, monsieur.
Ouais. Tu veux me laisser m'expliquer avec le client? De quelle époque? J'en sais rien, moi. Art décoratif, oui.
C'est pas une copie, au moins.
Non, mais monsieur, je trouve que vous y allez un peu fort. Hein.
Non, je veux dire, est-ce qu'il n'est pas plus jeune qu'il n'y paraît?
Allez, montre-toi.
Monsieur, je ne vous permets pas. Je suis authentique.
Monsieur, tout ce que nous avons ici est ancien. Vous l'apprendrez. Et puis... Regardez les coins. Pas de moisissure au coin.
Les pieds ont été refaits, non?
Et puis quoi encore?
Il est piqué, là!
Oui, mais non, mais ça, c'est la variole. Hein. Bah, ce sont pas les vers, hein, c'est normal.
C'est bien gentil, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi?
Mais c'est fou hein, de manquer d'imagination pour un grand jeune homme de votre âge. Mais je sais pas, moi, ce que vous pouvez en faire. Une torchère. Ne serait-ce que ça, oui, c'est joli une torchère dans le vestibule, ce serait joli ça, non?
Non, mais je veux pas rester seul dans un vestibule.
Ah, je t'en prie, hein. Ça suffit comme ça. Et regardez, il se plie.
Avec difficulté.
Mais on peut en faire une très belle écritoire. Il n'y a qu'à changer le dos, hein, avec les petits tiroirs secrets derrière.
Oh non !
Une autre utilisation possible qui me vient à l'esprit. Hein. Couper en deux peut-être. Ouais, ouais. Le haut, alors en porte-manteau pour accrocher les chapeaux. Le bas en porte-parapluie. Et une fois qu'il sera habillé, qu'est-ce que vous dites de ça ?
Oh mon Dieu, mais c'est un demain. Au feu, pimpon, pimpon, pimpon.
Mais tu veux te taire ? Bien entendu, monsieur, si vous me le prenez, je vous le rhabille hein, de pied en cage, je lui dégage la nuque et je vous le ponce.
Mais enfin, tu ne vas pas me poncer quand même.
Le client est roi. Commande, on s'incline. On n'a pas le droit de refuser la vente. C'est trop dur. Tout ce qu'on a, on le vend.
Bon, alors d'accord, tu me vends. Mais avec un bel abat-jour et monté en lampadaire.
Michel Serrault se présenta entre deux spectacles de cirque Medrano et du cirque d'hiver, au concours d'entrée du Conservatoire national d'art dramatique. Il présenta les Fourberies de Scapin et le jury lui imposa Octave des Caprices de Marianne de Musset. Avec la meilleure volonté du monde, le jury ne voyait pas d'emploi pour lui. Il n'était pas distribuable. On lui désigna la porte. Au Club des Recalés, il était en bonne compagnie. Louis Jouvet avait été refusé 3 fois. Cette péripétie était pour lui un simple obstacle qu'il n'avait pas su franchir, en rien indispensable à la finalité de l'entreprise. Être clown. Les soirs d'été, il imaginait et créait les spectacles avec tous ses copains, sa sœur et un de ses frères, qui jouaient sur les toits des garages, avenue de la Porte Brunet. Il jouait de la trompette. Son professeur, le chef d'orchestre de chez Medrano, lui donna des leçons à la maison. Il organisa le 14 juillet 1946 une grande parade de cirque ambulant avec une quinzaine de ses copains, dont un de ses frères, pour un circuit dans Paris de 23 heures à l'aube. Le conservatoire n'avait pas voulu de lui. La piste ne l'avait pas rejeté. Le théâtre n'avait pas dit son dernier mot. Son passage chez Dulin l'avait fait remarquer par 2 comédiens et metteurs en scène. L'un d'eux dirigeait une troupe qui, sous l'égide de l'association Travail et Culture, projetait plusieurs tournées outre-Rhin grâce à la toute nouvelle direction de l'action sociale et culturelle des troupes françaises d'occupation en Allemagne. Il intégra pour jouer Octave dans les Fourberies de Scapin et le deuxième spectacle, Smeraldine, dans Le Roi Serre. Sa première expérience de la troupe itinérante, sa première tournée, ses premiers vrais cachets de comédien. Il s'ensuivit 2 autres tournées de retour à Paris. Il décrocha tant bien que mal quelques rôles au théâtre La Bruyère. Chez Georges Herbert, il rejoignit la compagnie du Myrmidon pour jouer Salle Pleyel, une farce de Ben Jonson, la foire de la Saint-Barthélemy. Pendant tout ce temps, son activité de clown était soutenue. Les Bobeiro jouait dans les fêtes de charité, pour des spectacles de patronage. Il allait avoir 20 ans. Le service militaire l'appelait. Avant de partir, il alla applaudir au théâtre La Bruyère, une création d'un spectacle désopilant, Les Branquignoles. L'inventeur de ce tourbillon de folie s'appelait Robert Derry. Il lui promit de le faire travailler au retour de son service militaire. 1948. Sous les drapeaux, à la base aérienne de Dijon-Longwy, un lieutenant lui tint à peu près ce langage. « Ça vous intéresserait, Serrault, de faire le guignol ?» Il lui répondit que c'était un peu sa partie et qu'il pourrait faire des choses très bien pour les soldats et leurs familles, pour les malades des hôpitaux, si on avait une troupe de théâtre. Ainsi fut créé le groupe artistique de l'air. Il proposa les Fourberies de Scapin et les Boulingrins de Courteline qu'il mit en scène. Vu le triomphe, il prit sa belle plume et écrivit à 100 de curés de la Côte d'Or pour proposer à destination de leurs fêtes paroissiales, patronages et autres kermesses, leur fabuleux spectacle de leur troupe baptisée les Turlupins. Ils réussirent à se faire engager par quelques ecclésiastiques du département. Serrault avait pu caser aussi un numéro de clown monté avec un copain, Claude Primot, un appelé du contingent comme lui. Les clowns Primot et Serrault se tenaient à la disposition de toutes les fêtes. Une anecdote. Il allait voir au théâtre de Dijon un numéro de music hall, un fakir qui faisait porter les gens sur scène et les endormait. Intéressé par ce numéro, il se procura deux ou trois bouquins sur l'hypnotisme et se lança. Il pratiqua son expérience sur les copains de la base et ça marchait deux fois sur trois. Il se vantait d'être un acteur qui sait endormir les gens. De retour à la vie civile, autrement dit, après le désengagement militaire, les engagements au théâtre, prospecter et entamer la course au cachet. Il rejoignit la troupe de la baraque pour un spectacle intitulé « Cacouac ». On aurait deviné que ce spectacle comportait une partie musicale. Le principal compositeur était Jean Wiener. En même temps, il hantait le théâtre Sarah Bernard où les matinées classiques fournissaient un peu de travail aux jeunes comédiens. Là, il joua dans les fourberies de Scapin. Un télégramme arriva le 25 novembre 1950 à 10h30 lui demandant de téléphoner d'urgence au théâtre La Bruyère pour fixer un rendez-vous. Robert Derry avait tenu parole. Les Branquignols avaient joué à guichet fermé pendant des mois et Derry s'apprêtait à monter un nouveau spectacle, mélange de sketch et de numéros visuels avec gags, de performances musicales et sportives. Le théâtre allait raconter le cirque. Le spectacle s'appelait « Dugutu » sur une musique de Gérard Calvi et joua dans le sketch de la trompette de Géricault avec comme partenaire sa femme Nita et Guy Pierrot, dont la voix si reconnaissable a réjoui tous les fans de Bugs Bunny. Le succès de Dugudu, qui fut joué deux saisons durant, le conduisit chez les chansonniers. Robert Roca, l'un des princes de la stature montmartroise, avait ouvert un nouveau cabaret, La Tomate, à l'affiche la traditionnelle revue d'actualité sur le monde satirique. Il y rencontra Jean Carmet. L'aventure Dugudu terminée, il retourna au théâtre Sarah Bernard dans l'espoir de décrocher un rôle. Il était à peu près certain de sortir quelque chose connaissant A.M. Julien depuis ses tournées en Allemagne. Mais ce jour-là, l'attente a été longue. Un garçon de son âge vint s'asseoir près de lui. Il lui adressa la parole. « De toute façon, je suis sûr d'être engagé. J'ai une fortune personnelle. » C'était Jean Poiré. Merci Françoise et merci Philippe pour vos lectures et à très bientôt pour de prochaines émissions. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour. « Plus j'avance en âge et plus je ne vois que la dérision de nos existences. » Elle est de Jean Poiré. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Attitude FM, attitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler sur mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne. L'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.